Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour dans le JDA, vous avez la parole pour réagir et débattre de l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est donc la libre antenne. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui réagissez au sujet de votre choix. Nous parlerons notamment du Cameroun. Nous reviendrons aussi sur le sujet d'hier concernant l'homosexualité. Vous êtes nombreux aussi à vouloir réagir à un retour annoncé de Laurent Gbagbo. Et enfin, nous évoquerons également l'actualité chargée au Mali. Mais venez nous parler du sujet de votre choix. Pour cela, il faut composer le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Réagissez également en direct sur WhatsApp en nous écrivant au 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Alban, bonjour. Les religions monothéistes ont au maximum 2 millénaires, alors que l'homosexualité date des temps immémoriaux, et ce, dans tous les peuples. Ce sont des actes qui existent aussi chez les animaux. Des études et documentaires l'en attestent, et visibles sur le net. Donc, on ne peut pas enrayer ces pratiques.
Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Bonjour Stéphanie. En fait, hier, je voulais intervenir dans l'émission, mais je n'ai pas pu. Donc, c'est pour tout simplement dire à mon frère Serge que l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal. S'il connaît l'histoire de ce pays, il ne peut pas venir à la radio pour dire « ouais, ça va être légalisé et tout ». S'il veut le faire dans son pays, mais il a plein de droits. Mais je ne comprends pas les gens depuis Paris ici qui veulent imposer des modes de vie aux Africains qui sont, alors qu'ils ne vivent même pas là-bas. Donc, l'homosexualité, Serge, ne sera jamais égalisé au Sénégal. Si tu veux le faire, va le faire dans ton pays. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Je vous remercie. Au revoir. Abdoulaye.
Bonjour Stéphanie, bonjour tous les auditeurs à Radio Africain. J'interviens ce matin par rapport au sujet de la Côte d'Ivoire, Stéphanie, sur 2 points. Premier point, ceux qui disent que Ouattara ne respecte pas ses engagements, Stéphanie, se trompent. Ouattara n'a jamais changé sa parole sur l'arrivée de Gbagbo, Stéphanie. Il dit Gbagbo souhaite, il va venir quand il voulait. Ouattara n'a pas changé. Mais il y a une seule chose, nous qui vivons en Europe ici, où il y a démocratie, surtout en France, si on demande une manifestation, un marche, si les renseignements généraux trouvent qu'il y a un danger, purement simplement, on annule la marche. Ça a été fait. Il y a même pas un, ça ne vaut même pas un mois en Palestine. On voulait faire un marché à Paris ici, ils ont annulé. C'est famille. Deuxième point, ceux qui disent qu'on appelle l'arrivée de Gbagbo, c'est famille. C'est là aussi, c'est trop. Quelqu'un qui a chassé au pouvoir, il avait tous les appareils d'État. Il avait tout, moyens d'État, l'armée, tout. C'est famille. Tu l'as chassé au pouvoir. Vu son arrivée, là, ça va te faire quoi? Après 10 ans, c'est toi qui as tout maintenant.
Bonjour Africa Radio, bonjour Africains, Antillais, Afro-descendants, bonjour à vous. J'ai eu une profonde pensée pour les parents d'Amédi Coulibaly. Parce que après avoir perdu leur enfant, voilà les propos que nous avons tous entendus dans une vidéo qui a été enregistrée à Cergy. Ça veut dire qu'Amédi Coulibaly a servi une cause qui le détestait profondément lui aussi. Ça doit être la double peine pour ses parents, vous imaginez. Si Amédi Coulibaly connaissait l'histoire des Noirs, il n'aurait jamais, jamais agi comme il a agi contre l'hyper cachère. Parce que l'histoire des Noirs, c'est très semblable à l'histoire des Juifs. Nos deux histoires entre Noirs et Juifs sont faites d'esclavage, de déportation, de génocide et de haine gratuite.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK. le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, doit montrer au monde entier la part des intentions de rester au pouvoir. Le Mali va continuer à travailler à la réussite d'une transition inclusive et républicaine. Les Maliens, pensez à votre destin, les militaires au pouvoir, la société civile et la politique, cherchez un consensus pour la prospérité de votre nation. Ne laissez pas la porte aux ennemis du développement de votre pays. La paix est la seule option pour le développement de votre pays, le Mali. Aïkomo Pongi, restant combattant RCP.
Bonjour, amis des GDA, c'est M. Gabi. Je vais parler vraiment aujourd'hui de le Mali et surtout le M5. Je demande aux Maliens, franchement, je demande aux Maliens, j'ai manifesté côté Choquel Kokela Maïga. Vraiment, je demande aux Maliens de soutenir Choquel. Vraiment, sans soutien Choquel, Mali, on savait d'où on va. Je demande aux Maliens encore, des Maliennes, de soutenir vraiment, massivement, M5, de Choquel, de notre premier ministre du Mali. Si Choquel, le premier ministre du Mali, abat l'accord d'Alger, abat le banditisme de Kidal, abat les Arakat, abat vraiment de coup d'état de Kidal, abat de tout, tout le jour on entend ça. On va retirer, on va partir, on va rester. Mais partez! Partez! Parce que vous avez un intérêt en Côte d'Ivoire, vous avez un intérêt en Burkina, vous avez un intérêt en Niger. Mais partez! Nous, on n'a jamais demandé de partir. Mais si vous avez envie de partir, mais partirez! Vous faites tout! Vous avez été à l'ONU, vous êtes déçus. Vous êtes l'Union africaine, on ne compte même pas l'Union africaine parce que personne ne calcule l'Union africaine. Merci, amis de Jida, c'est mes amis.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Nous commençons un peu plus tarder cette libre antenne. Nous parlerons justement dans un instant du Mali, mais on accueille tout de suite. Excusez-moi, j'ai un petit problème de. Mais je vais y arriver. On accueille tout de suite Serge. Serge, bonjour.
Oui, bonjour Madame Arkman.
Bonjour Serge, vous vouliez revenir aujourd'hui sur ce qu'on a appelé le casse des ambassades. C'est un procès qui s'est ouvert à Paris le 31 mai dernier, durant lequel l'activiste camerounais Calibri Calibro était jugé avec plusieurs co-accusés pour avoir saccagé l'ambassade du Cameroun en France. L'issue du procès est renvoyée. La sentence sera prononcée le 5 juillet prochain. Que vous inspire cette information ?
Madame Arman, j'ai demandé, je vous ai appelé justement pour intervenir aujourd'hui, tout simplement, par rapport à cette information. C'est la goutte d'eau un peu qui fait déborder le vase. Mais je m'exprime, je vais m'expliquer. Je voulais interpeller ce qu'on appelle la diaspora camerounaise, parce que moi-même, je suis d'origine camerounaise. Et je peux vous dire, Madame Arman, que vous poserez la question à beaucoup, beaucoup, plusieurs Camerounais ou même des Africains qui étaient en France, qui sont arrivés. Moi, je suis arrivé dans les années 80. Mmh. Et je vous avoue, aujourd'hui, Madame Arman, on ne se reconnaît plus. Vous avez une nouvelle génération qui est arrivée. Quand je dis nouvelle génération, les derniers arrivés. Mais il y a une honte pour nous, les Africains, parce qu'aujourd'hui, on fait du n'importe quoi. On agresse nos propres compatriotes. On salit l'image de nos pays en parlant du mal, même si nos présidents ne sont pas... on a plein de choses à leur reprocher, comme on peut reprocher aux présidents occidentaux, mais ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'interviens ? C'est tout simplement pour dire à cette diaspora, quand je dis diaspora, je mets les parenthèses, parce que la plupart des personnes d'origine camerounaise qui sont en France, ces personnes travaillent, elles ont un travail, elles n'ont pas le temps à perdre, même si elles savent qu'au Cameroun, il y a des problèmes.
Alors, Serge, ce que vous dites, finalement, vous ne reconnaissez pas dans ces activistes de la diaspora.
Pas du tout, Madame Stéphanie. Tout simplement, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que il faut que les gens, ils vont devoir souffrir en écoutant ce que je suis en train de leur dire. Je leur dis aux Africains, plus précisément aux Camerounais, que vous êtes, on fait
nous sommes la honte de l'Afrique. Nous sommes la honte parce que on s'exprime, c'est pas comme ça. On peut pas s'exprimer en France de la sorte en critiquant nos présidents qui sont soutenus, soutenus par la France.
Merci,
et ces gens-là se trouvent en France. Vous vous imaginez le contraste? C'est-à-dire qu'on dit que ces gens-là sont soutenus par la France, et on vient en France, on demande la nationalité, et soi-disant on combat la France. Non, il faut arrêter.
Merci,
il faut arrêter,
Serge.
Il faut se battre au Cameroun directement, ou alors on est en France.
Merci beaucoup, Serge. On a bien compris pour vous, le militantisme ne justifiait pas peut-être effectivement ce genre d'action de la diaspora. Merci beaucoup, Serge. Alors, de la diaspora, on va aller au Cameroun directement retrouver Dorine. Dorine, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Dorine. Bonjour, vous êtes à Douala, si je me souviens bien.
Non, à Yaoundé.
À Yaoundé, pardon, eh ben, voilà, je me souvenais pas bien. Dorine, vous vouliez notamment revenir donc, sur deux sujets, notamment celui, le sujet dont qu'on a évoqué hier, l'homosexualité qui fait toujours débat. On parlait du Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. C'est le cas d'ailleurs au Cameroun, où régulièrement des gens sont arrêtés.
Effectivement, je voulais tout simplement dire qu'il faut parler de l'homosexualité, parce que la question d'hier, c'était faut-il en parler? Oui, je pense qu'il faut en parler. Parce que même ceux qui ont parlé de la religion, par exemple la Bible parle de l'homosexualité. Et l'Afrique maintenant est donc en face à certaines cultures qui le pratiquent de façon ouverte. Peut-être qu'en Afrique, on ne se souvient pas vraiment qu'on ait pratiqué ça dans le passé, mais là, maintenant, c'est pratiqué de façon ouverte. Et au Cameroun, par exemple, c'est interdit. C'est même passible d'une peine de prison, d'une amende. C'est ainsi qu'on a emprisonné le fameux Shakiro. Donc je pense que c'est pas une punition qui est appropriée. La prison, c'est pas approprié. Dans la Bible, on parle des villes de Sodome et de Gomorre qui étaient réputées pour cela. Donc je pense que ce serait mieux de prévoir comme des pays comme en Angleterre, par exemple, où il y a les villes de Soho ou les villes de Brighton, de prévoir des endroits pour ces personnes-là, par exemple, avec leur mode de vie. Si on craint, par exemple, qu'ils n'intoxiquent les autres citoyens, disons, hétérosexuels. Donc, si l'État ne craint cela, eh bien, de prévoir d'autres mesures d'accompagnement, de prévoir, justement, peut-être des endroits où ces gens pourront s'exprimer, vivre leur vie comme ils veulent, et pas tout simplement les emprisonner, ou bien ne pas en parler et dire que c'est tabou, ou bien que la religion le condamne, parce que le fait déjà que ce soit mentionné dans des livres dits, des livres saints, ça veut dire qu'on doit en parler. Et donc, je pense également que les parents devraient élever leurs enfants selon des valeurs qu'ils veulent conserver, selon des traditions, parce que l'éducation commence à la maison, donc les parents doivent aussi en parler à leurs enfants. Donc là, c'était par rapport au premier point sur l'homosexualité.
Tolérance, mais pas de sanctions, on entend bien. Dorine, l'autre sujet que vous vouliez évoquer, c'était l'influence de la Russie au Mali, ou plutôt comment une partie de l'opinion malienne appelle la Russie, j'ai envie de dire, entre guillemets, à l'aide.
Effectivement, moi j'ai été étonnée de voir ça. C'est vraiment étonnant que les Africains n'apprennent pas de l'histoire. J'ai aimé la phrase de Abdel qui est intervenu le jour où l'émission a été diffusée, où il disait qu'il faut que les Africains ne se fassent pas mordre une deuxième fois par le même serpent. Donc en fait, c'est ce qui risque d'arriver. Qui vous dit que la Russie viendra faire différemment que la France? Je pense que l'Afrique a toutes les ressources pour se soustraire à une domination de telle ou telle puissance. Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Je pense que le Tchad devait être le premier pays à venir en aide au Mali parce que chez lui, le coup d'État a été validé. Alors, c'est le général Mahamat, là, le fils d'Idriss Déby, qui devait venir en aide à Sini. S'il pense que l'armée a un rôle important à jouer, et qu'au Mali également, l'armée a un rôle important à jouer, alors qu'ils viennent en aide au Mali et qu'ils montrent aux autres pays africains qu'un coup d'État justifié par une junte militaire, ça peut marcher, surtout quand on a des bonnes intentions. Merci. Alors, je pense que les Maliens doivent arrêter de chercher l'aide ailleurs. Si les pays africains ne peuvent pas les aider, c'est pas la Russie qui viendra les aider. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent vraiment mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et technologiques en leur propre sein, pour se soustraire d'une influence de la France ou je ne sais pas moi.
Extérieure, ce que vous dites,
de l'extérieur.
Dorine,
voilà,
merci.
Maintenant, nous sommes aux heures des réseaux sociaux, de la technologie, qui pourront filmer et on pourra voir qui a raison, qui a tort et comment ils sont en train de se débattre pour se libérer. Voilà.
Merci beaucoup, Dorine. Ce que je retiens de votre intervention concernant la Russie, c'est que voilà, au lieu de compter sur des partenaires extérieurs, étrangers, au continent africain, il faut peut-être d'abord appeler à davantage de solidarité africaine. Merci beaucoup, Dorine, de votre intervention. Excellente journée à Yaoundé. Alors, je demande à ceux qui veulent évoquer le retour de Gbagbo de patienter encore un peu, puisque Dorine a évoqué le Mali. On va justement parler du Mali. Alors, je demande à Claudel de patienter. Cercelli, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Cercelli. Alors, vous vouliez revenir, vous, sur la présence du mouvement du 5 juin au gouvernement. On a annoncé en début de semaine, je pense que nous-mêmes, sur Africa Radio, nous avons fait l'erreur, la nomination de Choguel Maïga. Alors, elle n'est pas officielle, mais Choguel Maïga est vivement pressenti pour devenir le Premier ministre de la Transition. Cependant, on a bien vu que la décision de la France de prendre des sanctions pourrait avoir un lien avec cette éventuelle nomination. Et vous, vous dites le M5... au gouvernement, c'est un piège. Pourquoi ?
M5, c'est ce que je pense réellement. Parce que, en fait, Hatimi, la dernière fois, j'ai essayé d'intervenir. Cette coup d'État-là, je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, la deuxième coup d'État, ça a été fait justement, uniquement pour des postes.
Pour vous, le deuxième coup d'État, c'est uniquement pour des postes. C'est-à-dire que c'est le fait que les militaires aient été écartés de certains ministères qui ont été provoqués ce coup d'État ?
C'est uniquement ça.
Certains estimaient qu'ils se sentaient en danger.
Mais c'est uniquement ça, c'est mon point de vue. En tout cas.
D'accord.
Sauf, c'est les actes qui prouvent qu'ils ont fait ça pour le Mali. Quoi. En fait, pour moi, ils ont annoncé de donner la primature à M5 pour légitimer, en fait, près de la communauté internationale, près de nos voisins et tout. Au moins, parce qu'en fait, M5, honnêtement, M5, il mérite bien d'avoir cette place-là. Mais quand ils ont fait le premier coup d'État, Ibeka a sauté. Quand Ibeka a sauté, ils n'ont pas écouté M5. Malgré, j'ai beaucoup de reproches à M5, même la grosse tête, tout ce qui est là, je ne fais pas trop confiance en eux. Sauf Choguel. Même Choguel, je ne fais pas trop confiance parce que c'est les mêmes têtes qui sont là depuis 30 ans. Uniquement, ce qui me rassure du côté de Choguel, au moins lui, il est clair sur certains sujets.
Notamment l'accord d'Alger. Et on rappelle qu'une rencontre avec la communauté des mouvements de l'Azawad a eu lieu, la coordination, pardon, des mouvements de l'Azawad a eu lieu à la présidence avec Assimi Goïta en présence de Choguel Kokala Maïga. La CMA dit avoir eu quelques assurances concernant cet accord d'Alger. Merci, Cercelli. Je demande Claudel qui veut évoquer le Mali également aussi, mais on va écouter Manjou d'abord. Manjou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Manjou, je voulais revenir sur les annonces Alors, ce n'est pas les annonces du président français, soyons précis, c'est les annonces du ministère français des armées qui a annoncé donc une suspension de sa participation aux opérations militaires conjointes, ce qui ne signifie pas une suspension de Barkhane qui continue ses actions.
Oui, mais justement, Macron, il est le chef d'État, et le chef suprême de l'armée.
Oui, oui, oui.
Y compris parler et compagnie. La suspension, comme je vous ai dit, madame, je crois qu'il est sous l'emprise de la colère. Bon, après, ce n'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit. Et en même temps, je crois qu'ils ne sont pas cohérents. Parce que s'ils sont là pour dire qu'ils sont venus dans un cadre d'accord pour l'intervention au Mali, je ne crois pas qu'ils l'interrompent comme ça. Le souci n'est pas là. Aujourd'hui, 90% des Maliens, madame, je vous mens pas, souhaitent le départ des Barkhane. Ce n'est pas un entier français ou quoi que ce soit. Le problème, c'est quoi ? Assimi est là, Choguel est là, mais vous savez ce qui fait la frustration du peuple, c'est de dire que non, c'est pas lui c'est pas lui qui doit être choisi, c'est lui. Non, le peuple malien, c'est un peuple maquille. Laissons-nous choisir la personne adéquate, la personne qui peut nous amener la paix. Mais pourquoi se poser à la nomination de Choguel? Parce que dans cette lancée-là, ça va pas terminer, parce que les Maliens sont déterminés aujourd'hui. On n'acceptera pas le choix de Paris. Je ne veux pas dire la France, parce que la France est vague. La France, mon pauvre, on ne parle pas de la France, on parle de la diplomatie.
Oui, mais
les Maliens ne vont pas céder au choix de la diplomatie française. Il faut qu'ils comprennent ça.
Alors, oui.
Dire qu'ils interrompent la coordination avec l'armée malienne. Là, il y a une niaise, là. Il y a un problème. Je ne comprends pas. Je n'ai pas peur. ils peuvent y aller. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens se sont retournés vers la Russie. Parce que s'ils l'interrompent, ça sera pas, ça sera illégal. Et les Maliens aussi ont le droit de faire appel à qui veut, que ce soit les Iraniens, que ce soit les Israéliens ou je ne sais pas qui. Mais on a le droit de faire appel à qui on veut.
Alors justement, Manjou, merci beaucoup d'avoir introduit cette question. On rappelle que le mouvement du 5 juin a appelé une manifestation aujourd'hui. Ce sera aussi peut-être une éventuelle démonstration de force. Merci encore à Manjou. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Claudel. Alors on va un peu dans la même lignée que des propos de Manjou. Vous dénoncez, vous, une forme de chantage de Paris.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que plutôt à Paris de tirer les leçons de sa présence au Mali, parce que concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis leur présence là-bas, si ce n'est que renforcer, à mon avis, ce découpage, cette scission du Mali, parce que du côté Kidal, vous savez que l'armée malienne n'a pas pratiquement le droit d'y aller. Vous voyez, alors que la France y est présente. Si le Mali est un et indivisible, logiquement, avec les moyens techniques sophistiqués dont dispose la France, c'est un pays qui à mon sens, serait actif en paix aujourd'hui.
Je vous signale quand même, parce qu'on dit souvent ça avec les moyens techniques, je vous signale quand même que la zone du Sahel représente quand même environ la taille de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est une zone qui est quand même large.
Mais moi, je pense sincèrement que la politique menée par le gouvernement français ou bien par le président français, parce que c'est lui qui décide. Voilà, c'est après qu'on informe le peuple français de ce qui se passe. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Là, moi, je pense que Barkhane est présent et il n'y a pas d'évolution positive vers une situation apaisée. Il n'y en a pas.
Donc, vous dites, selon vous, le départ de Barkhane ne changerait rien, finalement.
Est-ce que réellement, y a-t-il un coup d'État qu'on salue et un autre qu'on ne salue pas ? Au Tchad, ça s'est passé sous nos yeux. Ils ont fait, outre la Constitution, ils ont applaudi quelqu'un qui a pris le pouvoir comme ça, ni vu ni connu, comme le disait à l'époque Nicolas Sarkozy, qui disait on a enlevé telle personne, on a mis celui-là, et puis il n'y a rien.
Un peu modifié. Mais on entend bien, Claudel, moi, ce que je retiens de votre intervention, Claudel, c'est finalement que la politique de la France sur le continent, dans certains pays africains, est de moins en moins lisible. Vous avez fait la comparaison entre le Tchad et le Mali. Merci beaucoup, Claudel. Je suis désolée, Keïta voulait intervenir, il dit, pour le djihadisme au Mali, il faut la présence des Français et des Russes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va parler d'abord du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Normalement, c'est prévu pour le 17 juin. On va écouter Gaoussou, Vincent et Diomo. Gaoussou, bonjour.
Bonjour, Mme Stéphanie.
Bonjour, Gaoussou. Vous êtes à Yop, hein ? Vous êtes à Yopougon, c'est ça, à Abidjan ?
Oui, c'est à Abidjan, mais c'est à Koumassi.
À Koumassi. Bienvenue Gaoussou. Alors, ce retour de Laurent Gbagbo le 17 juin prochain, ça vous satisfait ?
Bon, personnellement, je n'ai pas de problème avec l'arrivée de Laurent Gbagbo. Moi, je pense que les partisans s'emportent un peu par rapport à son arrivée. Donc, en Côte d'Ivoire, si nous savons que beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu, le président même a annoncé qu'il y a eu 3000 morts. Après, bon, c'est vrai que la CDI a prononcé l'acquittement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, les partisans parlent de sur l'accueil en fanfare, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, il faut qu'ils sachent que. Il ne faudrait pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Voilà. Moi, c'est seulement ce qui voulait déplorer un peu par rapport au.
Pas d'accueil en fanfare, par respect aussi hein, pour les victimes, si je vous entends bien, Gaoussou.
Comme un président, comme quelqu'un qui était allé et puis de retour, bon, on peut l'accueillir, il n'y a pas de problème. Mais l'accueil en fanfare, bien, machin, bon, ça, il voit que c'est un peu trop. Parce que les gens sont là. Il y a encore la plaie est encore fraîche. Ce n'est pas encore bien cicatrisé. Donc, il faudrait que les gens sachent ça. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a eu quelque chose. Parce que, jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas le pouvoir en place. Mais quand ça les arrange, ils tout que le pouvoir est en train de faire. Bon, on est en train d'aller à la réconciliation. Mais quand les gars essaient de d'aller un peu dur, ils trouvent que les légitimes, les machins, on ne sait pas vraiment. Que les gens comprennent.
La plaie est encore vive et peut-être aussi le défi maintenant pour la réconciliation sera peut-être aussi d'écrire une histoire commune sur ce qui s'est passé ces deux dernières décennies en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Gaoussou de votre participation. Excellente journée à Koumassi où il est 11h50. On change de pays, on voyage, on va jusqu'à Abomey. Kalavi, c'est au Bénin où il est 12h50, je pense. Accueillir Vincent. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour, chère Stéphanie Ahmann.
Bonjour, Vincent. Vous voulez revenir aussi sur ce retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole.
Effectivement, je suis très fier que ce serait concret que Laurent Gbagbo revienne dans son pays après tant d'années à la CPI, à la RAI surtout, parce que celui qui a combattu la justice internationale n'est pas n'importe qui, malgré plusieurs chefs d'accusation. Et non seulement son retour, il est comme un devait normalement accueilli comme un héros, parce que c'est la première fois qu'un président africain, c'est-à-dire un Africain, a combattu la justice internationale, et que son retour ne serait pas seulement un simple retour, qu'immédiatement, on va rétablir son droit civique, c'est-à-dire il va participer à les élections, ou bien voter, c'est-à-dire participer dans toutes sortes des élections et à venir, parce que c'est ça qui divise les pays surtout. C'est-à-dire les départs en Côte d'Ivoire divisent surtout les pays. Donc si on a rétabli ses droits civiquement, là, c'est-à-dire, je pense que la Côte d'Ivoire va encore, c'est-à-dire, retrouver un peu de souffle dans les pays, sur quels que soient les rangs politiques, administratifs et aussi internationaux.
C'est très clair. On a bien compris, Vincent, votre point de vue. Merci beaucoup, Vincent, de votre participation. Excellente journée à Abomey Kalavi. Du mot de Beng voulait intervenir. Il disait, je suis contre le musellement de Laurent Gbagbo. Vous l'entendez, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas, continuez à commenter l'actualité en laissant des messages sur le répondeur du JDA. Vous pouvez également vous inscrire pour les émissions. Lundi, nous parlerons de cette proposition de loi en RDC de Noël Tchiani qui dit que pour être président au Congo, il faut être né de père et de mère congolais. Alors, qu'en pensez-vous? On en parle lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa Radio. Et puis surtout, prenez soin de vous.